Lisette, Lisette, c'est Jean, oui. Et tu sais quoi? J'ai gagné. Champion du monde. Tu te rends compte, moi, champion? Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis?
Oui. Mais comment? Non.
Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas contents au stand. Rien de grave, j'espère.
Si, Victor. Si.
Et c'est quoi?
C'est ma Mimi. Les poches, là, sont faites.
Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire?
Les poches, là, sont faites. Je dois te faire un dessin, peut-être?
Cafard est un film belge d'animation de Jean Butel. Il raconte l'histoire d'un chapitre oublié de la Grande Guerre, celle des 343 Belges qui se sont engagés dans ce conflit. On suit l'odyssée de Jean Mordant, champion du monde de lutte, qui rejoint les troupes avec son entraîneur et son neveu pour venger sa fille battue et violée par les Allemands. Hélas, ils ne savent pas vraiment ce qui les attendent. Un film entièrement designé en motion capture et en 3D avec un esthétisme assez novateur. Entretien avec Jean Butel, réalisé en compagnie d'Alix Laguepe.
Pour Cafard, vous vous êtes inspiré du livre d'Auguste Thierry et de Dirk van Klimput qui raconte un peu ces voyageurs dans la Grande Guerre. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez pris connaissance de cette histoire?
Ben, c'est un peu par hasard que j'ai trouvé ce livre. En fait, j'étais à la recherche d'un thème ou d'un sujet sur la Grande Guerre, parce que je voulais faire un film, c'était en 2011, et je voulais vraiment faire un film sur la Grande Guerre, parce que je savais qu'il y aura la commémoration en 2014, évidemment. Et en fait, c'est ma femme qui me l'a donné, et c'était ce livre « Reizigers door de Grote Oorlog » de Auguste Thierry. Et dès que j'ai commencé à lire ce bouquin, j'étais tout de suite captivé par cette histoire, de cette division de voitures blindées, primitives en fait, qui par des circonstances ont fait le tour du monde à cette époque-là, donc entre 1914 et 1918, et qui ont vécu des choses quand même extraordinaires. Et puis, sur cette histoire, j'ai inventé des personnages et l'histoire du film, en fait, est basée sur, mais ce n'est pas vraiment la traduction du livre, quoi. Mm-hmm. C'est inspiré par.
C'est aussi l'aspect individuel de la Grande Guerre, parce que si on recontextualise les trois compagnons qui s'engagent, ils n'ont aucune idéologie politique du conflit, en fait.
Je pense pas, et je pense que beaucoup de ces soldats à cette époque n'étaient pas très, n'avaient pas beaucoup de convictions non plus. Ils étaient convoqués, ils devaient servir leur pays, quoi. Donc c'est aussi un peu ça que je voulais faire. C'est un film qui voit la Grande Guerre à travers des petits hommes, quoi, des petits malins, quoi.
En fait, ils sont plus témoins d'éléments tragiques que militaires, en somme.
Oui, absolument. C'est aussi un peu le thème du film. C'est un peu un film, c'est pas un peu, c'est un film anti-guerre, quoi. C'est un film qui dit pourquoi cette guerre, la Première Guerre mondiale, mais un peu aussi, c'est l'histoire aussi d'un père qui va se battre dans une guerre qui n'est vraiment pas le sien. J'espère, en fait, que c'est un thème un peu universel, que ça ne parle pas que de la Première Guerre mondiale, mais que c'est aussi un thème qui se jouerait maintenant dans une autre guerre, quoi. Il y en a plein de guerres, il y a du choix, quoi.
Jean, l'armée belge est en train de réorganiser à Paris. Il y aura une nouvelle division, l'ACM. Tu te rends compte? Avec une mitrailleuse au-dessus. On va tirer les boches comme des lapins des dunes avec ce genre d'engin.
Je sais qu'ils cherchent des volontaires pour une grande offensive d'ici la fin de l'année. Tu me suis?
Je nous y vois déjà avec la mitrailleuse au-dessus. Ça, au moins, c'est faire justice. Pour venger ta fille et toutes les jeunes filles de Belgique.
On fait comment pour s'engager, hein?
Vive la Belgique!
Vive la Belgique! Vive la Belgique!
Ciao!
On va réussir!
On va en Russie.
C'est aussi un chapitre malheureusement que le grand public connaît très peu, hein. C'est 342 Belges du bataillon blindé auto-canon mitrailleuse. Ils ont quand même été embarqués dans une espèce d'odyssée de 4 ans à travers le monde. Ça n'a pas eu vraiment un impact réel du point de vue militaire.
Oui, effectivement. Donc ils ont fait tout ce voyage. D'ailleurs, ils ont coûté beaucoup d'argent. Quand ils sont partis, c'était en fait le roi Albert a été chassé de son pays et il devait réagir, il devait faire quelque chose, quoi. Et ce qu'il a fait, c'est en fait il a fondé cette division ACM justement pour dire « je suis là ». Avec des voitures qui étaient les plus modernes à cette époque, avec cette idée de voiture blindée qui était tout à fait nouveau. Donc c'était son image. Mais donc il a mal calculé son coût, je pense, et il a dû les envoyer à l'autre bout du monde. Déjà, dès le début, c'était un peu raté. Ça a été une histoire complètement oubliée, et c'est grâce à professeur Thierry qui a écrit ce livre, qui a étudié ou qui a recherché là-dessus pendant plus que 20 ans, qui a, grâce à ce livre, que cette histoire est de nouveau recontextualisée. Oui, c'est une histoire aussi, je pense qu'après la guerre, puisqu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de résultats militaires, ça a été mis de côté. Et donc, ça n'a pas été un grand succès, quoi.
Vous mettez aussi l'accent également sur une guerre dans la Grande Guerre, notamment avec la révolution en Russie, entre le ministre de la guerre du gouvernement provisoire russe, Alexander Kerensky, et les bolcheviks. Mais sans vraiment expliquer la complexité d'une situation mêlant guerre internationale et guerre civile, est-ce c'est un choix volontaire pour dépeindre de manière forte toute l'absurdité en fait, de cette guerre ?
Oui, absolument, parce que le contexte historique vrai de cette époque en Russie, à Kiev, est tellement complexe, est tellement bousculé, tellement chaotique que je ne pouvais pas, et après un temps, je ne voulais plus vraiment rendre dans le détail tout ce qui s'est passé. La seule chose qui est importante, c'est que pour les Belges, ils étaient au milieu d'une guerre civile complètement chaotique et ils étaient bouleversés de tous les côtés. Donc c'est ça que je voulais montrer. C'est aussi par exemple quand il y a un petit dialogue que j'aime beaucoup, c'est que quand Jean dit « oui, ce Lénine, on ne va plus entendre parler de lui longtemps », tu vois, les soldats à cette époque-là, ils n'avaient pas les GSM et même pas les journaux, même pas la radio, ils n'avaient rien, ils ne savaient rien de ce qui se passait vraiment. Donc pour eux, je pense aussi que cette révolution bolchevique, ils n'en voyaient pas beaucoup, quoi.
Comment vous avez travaillé le scénario, le rôle de Victor, qui lui-même est inspiré de Julien Lahaut, futur député communiste ?
C'est pas Victor, c'est Guido. C'était un peu par rapport au personnage de Jean. C'est un peu son... Il y a Jean et à côté de lui, il y a le vieux Victor et le jeune Guido. Et en fait, ces trois personnages dans le script, ils se contrebalancent en fait. Si Victor est grand, Guido est petit, et puis Victor devient petit et Guido devient grand. Allez, je simplifie un peu, mais c'est un peu comme ça. Et moi, j'étais aussi captivé par ce personnage de Julien Lahaut, qui, à cause du fait qu'il a fait ce voyage, qu'il a vécu la guerre civile, qu'il a vécu les bolcheviks, qu'il a vécu tous les meurtres, les viols, tout ce qui s'est passé à cette époque, qui a, en réaction de tout ça, qui est rentré en Belgique et qui a fondé la partie communiste belge. Et je trouvais ça très parlant, parce que c'est un jeune, et la réaction de Jean contre cette prise de conscience politique, c'est son adagio dans le film, c'est « je vais t'expliquer comment c'est, toi tu tires sur moi, je tire sur toi, quel est le résultat ? On est tous les deux morts, ça c'est le résultat, les gens ne valent rien. » Et c'est Guido qui a toujours un genre d'idéalisme, mais pas Jean, quoi. Donc c'est entre ces deux que ça se passe.
Ça va pas bien, tonton.
Non, Guido, non. Ça va pas bien du tout.
Non, ce que je veux dire, c'est que la guerre va pas bien du tout. Le front tout entier est en train de s'effondrer. Ce Lénine à Saint-Pétersbourg, il dit à tout le monde qu'il faut refuser de se battre. Il veut redistribuer toute la Russie. Il veut donner les terres des Richards aux paysans et les usines aux ouvriers.
Tu y crois vraiment, toi ?
Ah oui. Écoute, tous ces Russes qui se battent, ce sont des ouvriers ou des paysans. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Si on t'annonçait que tu vas rentrer chez toi, allez, hop, la guerre est finie et tu recevras un coin de terre sans payer de loyer.
Je vais te dire quelque chose au sujet de ce Lénine. Tu ne vas pas entendre parler de lui très longtemps. Et ce bolchevique, hein, c'est ça le nom qu'on leur donne. Tu les as vus ici dans le coin.
Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser le cinéma d'animation pour faire votre film ?
D'abord, je suis réalisateur de films d'animation, c'est mon métier. J'ai toujours fait ça, j'ai étudié ça il y a très longtemps. Mais d'autre part, je pense aussi que le fait de le faire en film d'animation, que ça apporte beaucoup d'expression aux personnages. Il y a beaucoup de choses que je peux faire mieux en animation, les décors, les couleurs, les mouvements de caméra, tout ça, que je peux faire ça mieux que si j'aurais dû le faire en fiction. Donc c'est un peu les deux. Ça, de toute façon, faire ce voyage avec 350 volontaires, avec 12 voitures blindées, ça aurait été un budget Spielberg, quoi. Ça c'est sûr. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi parce que ça ajoute une couche d'expression artistique que j'aurais pas eu autrement. Le choix est double.
Vous avez opté pour une esthétique qui est très particulière quand même. Les décors et même les visages sont assez abstraits. On a beaucoup de traits qui pourraient être considérés comme parasites d'une certaine manière. Comment vous avez choisi de construire votre esthétique ?
Déjà, c'est un peu mon style de dessin quand je dessine. Traduire un style graphique que tu as, ta patte en fait, le traduire en animation, c'est encore une autre tâche. Et on a fait un développement du projet. On a beaucoup travaillé avant le film. La production du film même, ça nous a pris 1 an et demi. Mais le total a pris 3 ans et demi. Donc il y a deux années de préparation. Et en préparation, donc en développement, on a beaucoup cherché sur ça, sur le style, comment mettre les personnages, comment les colorier, comment les texturer. En fait, c'est aussi une réaction. C'est une réaction sur ce qui se passe pour l'instant en Europe, dans le monde, en fait, sur le film d'animation. On essaye d'imiter la réalité. C'est tous les films qui se passent, on essaye de toujours être plus réaliste. Et en fait, je trouve que ça enlève de la magie d'un film d'animation. Donc, mon briefing, c'était: est-ce qu'on peut faire encore plus simple, plus stylisé, plus abstrait, pour en fait que le public s'accroche aux personnages, à leur personnalité et pas à leur esthétique.
Les expressions du visage peuvent être considérées comme moins lisibles finalement que sur un film d'animation qui serait du coup plus réaliste. Est-ce que c'était voulu pour laisser une part d'imaginaire au spectateur ?
Oui, c'est un choix qu'on a fait. Aussi les ombres qui sont très cassées, ça a été un choix. Moi, j'aime bien ce genre d'image. Je préfère ce genre d'image que le CGI qu'on voit normalement dans les films, où tout est rond, où tout est arrondi, où tous les boutons et tous les poils sont bien dessinés. Moi, je trouve que ça perd de la poésie. Et moi, j'aime bien, c'est mon goût personnel peut-être, je ne sais pas. J'aime bien ce genre d'images qui sont forts, qui sont graphiques, qui sont bien construits.
Les formes sont justement très carrées, très coupées, on a beaucoup de triangles, des trucs comme ça. Est-ce que c'est justement une métaphore de la guerre, quelque part ?
Ben, le sujet et la forme dont on traite ce sujet devraient tomber ensemble. Allez, devraient tomber ensemble, ouais, c'est ça ? Ouais. Et je pense qu'un sujet comme un père qui veut venger sa fille qui a été violée dans une guerre où des gens meurent, tu ne peux pas le faire en joli, quoi. Tu ne peux pas faire des images jolies parce que la guerre n'est pas jolie, quoi. Donc c'est un peu essayer de trouver la forme qui colle le plus au contenu.
J'ai remarqué tout au long du film que le ciel a une couleur unie mais qui diffère. Par exemple, il est soit tout vert, soit tout rouge. Est-ce que là encore, c'était un symbole de l'émotion du personnage ou quelque chose comme ça ?
Oui, c'est ça. C'est aussi quelque chose que j'ai découvert en faisant le film. À chaque fois quand les scènes venaient vers moi pour faire les couleurs, parce que j'ai fait les couleurs sur toutes les scènes, tout seul, à chaque fois, je pouvais essayer des choses. Et au début, j'étais assez réaliste, quoi. Et puis, au fur et à mesure que je travaillais, au plus que j'ai osé mettre des couleurs atypiques, et au plus que je sentais que les couleurs traduisent en fait les émotions. Donc par exemple, la scène où Jean et Yelena se rencontrent là, qui est tout jaune, qui est tout brillant avec les projections des feuillages et tout ça. Si j'aurais fait la même scène mais dans une couleur, je dis bleu ou vert, ça aurait un autre impact émotionnel. Et j'ai essayé de trouver la couleur de l'émotion à traduire. C'est un peu ça.
Pourquoi vous avez choisi le dessin animé? Pourquoi plus le dessin animé que le stop motion où on pouvait également avoir une esthétique un peu carrée comme ça?
Mais ce qui est vraiment très spécial ou typique à Cafard, c'est qu'on a travaillé avec le mocap, avec le motion capture. Mmh. Donc c'est aussi ça qui, je pense, fait la différence avec d'autres films. C'est que les acteurs, on a vraiment joué avec des vrais acteurs qui ont vraiment étudié leur rôle, qui ont vraiment... Par exemple, on a fait beaucoup de lectures du scénario ensemble avec les acteurs. Je n'ai pas dessiné de storyboard, mais j'ai travaillé avec les acteurs, mais vraiment très, tu vois, concentré sur chaque scène. Qui est mon personnage, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, comment changent les relations entre les personnages. Tellement qu'à la fin, en fait, les acteurs savaient exactement comment dire les dialogues, comment réagir par rapport l'un par rapport à l'autre. Toutes les scènes ont été enregistrées en une fois. Donc les acteurs, en fait, jouaient toute la scène vraiment sur une base très émotionnelle, en fait. Parce qu'en motion capture, il n'y a pas de caméra vraiment. Donc ils doivent jouer la scène sans caméra, ce qui est pour un acteur assez exceptionnel ou très bizarre. Et ce n'est qu'après que j'ai injecté la caméra, que j'ai cadré, que j'ai fait des mouvements de caméra, etc. Donc c'est ça en fait qui, je pense, qui donne aussi l'impact émotionnel du film, j'espère.
Vous parlez justement des mouvements de caméra et sur certains plans on a des mouvements assez branlants de la caméra. Ça symbolise quoi? Qu'est-ce que ça doit montrer?
Ben, c'est un film de guerre, donc c'est un peu une caméra épaule comme une caméra qu'on voit dans les reportages dans la vraie guerre, quoi. C'est des caméras qui essayent de suivre les actions. C'est en fait contre l'esthétisme. C'est aussi très rare en film d'animation de voir ce genre de caméra. Et ça traduit aussi l'émotion des personnages, quoi, dans différentes scènes.
Pour rebondir un peu sur le côté esthétique, vous qualifiez aussi votre style un peu de low poly, ce qui voilà, résume un peu ce que vous disiez tout à l'heure dans le côté un peu brut, mais vous êtes peintre également, donc vous vous servez aussi de votre palette graphique en tant que peintre pour pouvoir justement concevoir ce film.
Le low poly, en fait, c'est donc les personnages en 3D sont construits de différents petits polygones. Et au plus qu'il y en a, au plus smooth, au plus arrondi que c'est. Et moi, je n'aime pas ce genre de look. On a donc simplifié le personnage un maximum pour justement les rendre plus graphiques et plus impressionnistes.
Les acteurs, est-ce que ils sont habitués justement à travailler en motion capture? Et comment ça s'est passé avec Wilwin Metz et les autres?
Ils n'étaient pas du tout habitués à faire du motion capture. C'était pour tout le monde, c'était la première fois. Et je dois dire, au début, c'est un peu bizarre parce que les acteurs, en fait, ils doivent être habillés dans un genre de training ou très moulant noir avec des marqueurs blancs. Donc au début, c'est très « qu'est-ce qui se passe ?» Mais une fois qu'on était dans la scène, qu'on allait jouer, c'était en fait très, et j'utilise les mots de Wim Wellard, c'est très libératoire. Donc il disait, je me sens plus libre parce qu'il n'y a justement pas, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas les décors, il n'y a pas les costumes, il n'y a pas les 10 assistantes, maquillage, coiffure, stylisme et tout ça. Et il pouvait vraiment se concentrer sur le contenu de la scène. Et aussi, puisqu'il n'y a pas de caméra, il ne faut pas refaire la même chose parce que la caméra n'existe pas. Et il pouvait vraiment jouer toute la scène du début jusqu'à la fin en une fois. Et ça ressemble plus en fait le travail d'acteur en théâtre qu'en cinéma. Parce que même en cinéma live, l'acteur joue par rapport à la caméra. S'il sait que c'est un close-up, il va jouer différemment que s'il sait que c'est un long shot. Donc Wim et les autres acteurs, Dinara Drukarova aussi, elles trouvaient ça libératoire. Parce que tu vas à l'essentiel de ce que veut dire la scène.
Au suivant.
Mon Dieu.
croyez qu'ils vont nous obliger à nous brosser les dents avant d'aller au front?
Oui, toi en tout cas sûrement. Allez, dépêche-toi un peu.
Elle est bonne celle-là, Jean.
Cher Honoré et Hans, sind meine dents assez propres pour que ma baïonnette in deine grosse boyau, j'enfonce? Où est-ce que je puis, Sophie, pour toi de meine gueule?
Следующий, пожалуйста.
Herr Schmidt. Grusco.
Allez, gamin, range-moi ça, ça suffit là. On a assez vu maintenant.
Eh oui, 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 c'est le champion du monde, champion du monde des tueurs de vaches.
Excusez-moi, je vous avais pas vu.
C'est une jolie chanson, ça.
On se connaît. On se vit à Saint-Pétersbourg.
Oui.
Jean Mordant, le dentiste.
Ah, oui, 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 oui. Mais continue, chante. C'est très joli ce que tu chantes.
Le scénario, il y a un humour quand même dans votre film qui est assez décapant. Est-ce que tout est écrit avant ou justement avec les acteurs, vous avez revu quelques répliques sur le moment?
Il y a beaucoup que j'ai écrit avant, beaucoup. Et ce qui est intéressant, mais peut-être pas pour vous les Français, je ne sais pas, mais le langage qu'on utilise, c'est de l'ostendais, mais de l'ostendais archaïque. Donc c'est même pas l'ostendais de ce que les ostendais parlent aujourd'hui. On a trouvé un mec, un vieux monsieur, qui s'est vraiment occupé que de la langue ostendaise archaïque. Et on a fait plusieurs lectures aussi du scénario avec lui, et c'est lui qui nous a donné tous les petits dictons et des choses vraiment très, très comiques et très vulgaires parfois, mais très vraies, très authentiques. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Et pour les Flamands, de toute façon, c'est assez captivant.
Le doublage des voix françaises. Donc il y a eu le choix de Benoît Magimel pour Jean Mordant, Jean-Hugues Anglade pour Victor, on reconnaît d'ailleurs même à peine sa voix, et Guido, c'est Maxime Donné. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est que les voix sont très 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 bien filtrées. Est-ce que vous les avez guidées ou est-ce qu'ils se sont débrouillés tout seuls?
J'étais là-bas pendant le dubbing de tous les personnages principaux. En fait, c'est la coproduction française qui a choisi. Mais j'étais vraiment très content. Je trouvais que surtout Benoît Magimel, il s'est vraiment impliqué dans le personnage. Il avait lu le scénario, il avait vu le film et il était vraiment très, 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 très enthousiaste. Et il m'a même, à un certain moment, il m'a même raconté sur son personnage Jean des choses que je n'avais même pas vues. Donc c'était assez... Il avait vu plus dans le personnage que moi. Donc c'était assez chouette.
Ouais, c'est très réussi. Et ma dernière question, c'est le titre du film. Évidemment, il est évoqué dans le film, la métaphore du cafard, que même quand on l'écrase, il est toujours vivant et que c'est dur comme la pierre. Ça a été tout de suite évident pour vous, ce titre?
Oui, c'est bizarre. Cafard veut aussi, mais vous connaissez ça, avoir le cafard.
Oui,
ouais, c'est ça. Fait, ouais. En Flandre, c'est difficile parce que beaucoup de gens ne connaissent même pas vraiment très bien cette expression. Oui, c'est bizarre quand j'ai lu ce livre, et en fait le début du film et la fin du film me sont tout de suite venus, et j'avais presque tout de suite le titre Cafard. Donc le début avec le viol de la fille et la fin que Jean va chercher son petit-fils, j'avais tout ça, j'avais le début, j'avais la fin. Et puis j'ai dû travailler beaucoup pour y arriver, pour coller tout ça ensemble. Mais oui, et le titre Cafard aussi, c'était assez spontané, quoi, en fait, assez immédiat.
Il y a un cafard! Il est là, je le vois, attends, il est là! Là, là, je le vois, là!
Là, le voilà, là!
Il est mort! Oh la saleté! Oh, mais c'est pas vrai, il est toujours pas mort! Mais il est où?
Un cafard, c'est coriace, mon vieux. C'est plus dur qu'une pierre.
À nous la victoire. À bas les Boches.
À bas les Boches.
Et vive la Belgique.
Vive la Belgique.
Et vive le cafard.
Vive le cafard.
Allez,
auprès de ma blonde, qui me fait beau, très beau, auprès de ma blonde.
C'était un entretien avec Jean Butel, réalisateur belge du film d'animation Cafard, présenté dans le cadre d'un focus sur la Grande Guerre lors de la 16e édition du Arras Film Festival. Une interview réalisée par Alix et Boris. On se quitte avec le titre « When All Is Lost », extrait de la bande originale du film chantée par Anne Pirlet et qui est accompagnée par l'Orchestre Symphonique de Bruxelles.